France Info.
Et à la une ce matin, ce sont donc ces nouvelles frappes israéliennes en Iran et au Liban. La guerre n'est pas terminée, elle pourra durer un mois, dit même Donald Trump pendant la nuit. Le président américain affiche sa confiance dans la poursuite de l'opération militaire. Les pays de la région, eux, subissent la riposte de l'Iran qui vise des bases militaires américaines. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni affirment qu'ils vont aider à détruire à la source les capacités militaires de Téhéran. Elles décrivent des gifles, des coups, des insultes. Trois femmes accusent Tariq Ramadan de viol. Le procès débute ce matin. L'islamologue nie les faits. Et puis, des cris de joie à Marseille. Après deux semaines de crise, les supporters exultent. Victoire 3-2 contre Lyon hier soir. Convaincre les Américains du bien fondé de son action. Donald Trump s'est exprimé après le début des nouvelles frappes américaines et israéliennes en Iran. Des frappes qui ont amputé le régime de son guide suprême. Plusieurs dizaines de hauts dirigeants ont aussi été tués pendant le week-end. Franck Madvon, le président américain, affiche dans une vidéo publiée pendant la nuit une confiance absolue dans l'opération militaire qu'il a ordonnée.
Dans sa nouvelle vidéo publiée sur son réseau social, Donald Trump promet de venger la mort de trois soldats américains, assure que l'opération est déjà un succès. Pour le reste, il répète en grande partie ce qu'il a déclaré dans sa première allocution après le début des frappes. Les gardiens de la révolution doivent se rendre, le peuple iranien doit s'emparer du pouvoir. Dans cette vidéo, comme dans les interviews, brèves, données à plusieurs médias comme le New York Times, NBC, The Atlantic, Donald Trump se montre vague, parfois contradictoire sur les plans pour l'avenir de l'Iran. Il présente la capture de Maduro au Venezuela comme un modèle, mais l'Iran n'est pas le Venezuela, c'est un régime religieux, complexe, à plusieurs têtes, une population trois fois plus nombreuse. Il dit le plus souvent que le peuple iranien devra prendre les commandes, mais quand, à quel moment, qui ? J'ai trois bons choix, assure Trump, sans les révéler. Le président américain se dit ouvert à des discussions avec les dirigeants iraniens, sans donner de détails, et parle d'une opération de 4 ou 5 semaines, alors que des experts militaires soulignent déjà que les stocks de munitions peuvent rapidement s'épuiser.
Franck Madvon aux États-Unis pour France Info. Donald Trump ajoute qu'il souhaite venger la mort des trois militaires américains qui ont été tués par l'Iran, mais il prévient qu'il y aura probablement d'autres pertes. Et Israël a continué ses frappes pendant la nuit, a visé Téhéran de nouveau et a aussi étendu son action au Liban. L'armée vient de lancer un ordre d'évacuation massif dans le pays avant de nouvelles attaques à venir. En France, un conseil de défense et de sécurité s'est tenu hier soir. Emmanuel Macron a annoncé rehausser la posture de défense française au Moyen-Orient. Et dans un communiqué commun, les dirigeants allemands, français et britanniques se disent prêts à mener des actions défensives dans la région pour, disent-ils, protéger leurs intérêts et aussi pour aider les pays qui subissent la riposte iranienne. Téhéran qui vise Israël, mais aussi les bases militaires américaines dans la région, dans les monarchies du Golfe. Les États membres du Conseil de coopération du Golfe se sont réunis aussi en urgence hier soir. Ils réclament l'arrêt immédiat de ces frappes à Nandlouar.
Ils ont tous, à des degrés divers, été frappés ces deux derniers jours par des tirs iraniens. Émirats arabes unis, Arabie saoudite, Koweït, Oman, Qatar et Bahreïn, les États membres du Conseil de coopération du Golfe ont discuté hier soir des suites à donner à ces frappes qui, si elles visent des bases américaines, attaquent de fait leur territoire, tuant déjà plusieurs personnes, en blessant des dizaines. Les capitales du Golfe disent vouloir se coordonner en vue d'une réponse unifiée. Dans une déclaration publiée après la réunion, les 6 États concernés affirment conserver leur droit légal de riposter et de prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver leur souveraineté, leur sécurité, leur stabilité. Mais l'enjeu est aussi de plus long terme, car ce conflit, s'il se prolonge, pourrait, selon des experts, pousser ces monarchies du Golfe à renforcer leur coopération, notamment en matière de défense antimissile, de partage de renseignements et de sécurité maritime.
Les précisions d'Anne Andlauer sur France Info. Et cette guerre perturbe fortement le transport maritime via le détroit d'Ormuz. Il n'est pas complètement fermé, mais le trafic est quasiment impossible, alors que même 20% du pétrole mondial transite via ce détroit. Les prix du pétrole flambent. Ils ont dépassé les 80 dollars le baril, plus 13% en seulement quelques heures. La période est fortement très particulière pour ceux qui vivent au Moyen-Orient, notamment aux Émirats arabes unis, pays réputé comme étant très sûr. Émilie Flao, vous avez rencontré une famille française qui vit à Abu Dhabi depuis 5 ans. La mère est professeure, le père travaille dans le pétrole et tout le monde ne vit pas les choses de la même manière, Émilie.
Dans la famille Loisel, il y a ceux qui dorment dans leur chambre et ceux qui ont installé les matelas dans l'entrée, loin des fenêtres, comme la maman.
On ne s'attend pas à vivre ça dans une vie, donc c'est assez déstabilisant, mais ça se fait quand même dans un calme assez qu'on essaye de garder un maximum pour les enfants.
Il a fallu rassurer la plus jeune.
J'étais chez ma copine, du coup, il y a mon frère qui allait me chercher, et après, j'ai pleuré.
Et démêler le vrai du faux sur les réseaux sociaux avec les deux ados.
On a déjà eu à côté au Qatar comme au Koweït des explosions, mais jamais aux Émirats. Ça fait quand même quelque chose de bizarre d'être cette fois au cœur vraiment de l'action. Notre destin est un peu au moins de la chance.
J'aurais jamais cru que ça pourrait se passer dans ce pays, puisque ce pays est quand même très sécurisé.
Le père, lui, n'a pas changé ses habitudes. Il est sorti faire des courses et se veut optimiste.
Non, je suis pas très angoissé parce que d'abord, je pense que, et j'espère que ça va pas durer longtemps. Et puis, je suis aussi rassuré, honnêtement, par l'efficacité du système antimissile ici, de sécurité.
Les trois prochains jours, tous les écoliers et étudiants auront cours en distanciel dans tout le pays. Aucune consigne n'a été donnée pour l'instant pour le secteur privé.
France Info, reportage d'Émilie Flao et autres conséquences de ce conflit. Le trafic, cette fois aérien, est aussi très perturbé. Environ 2500 vols à destination du Moyen-Orient ont été annulés partout dans le monde ce week-end. Il est très difficile de quitter le Moyen-Orient en ce moment. Dans une demi-heure, juste après le journal de 5h30, nous allons contacter une Française coincée à Dubaï. Elle était venue voir des amis, elle est bloquée sur place. Elle nous racontera comment se sont passées les dernières heures et comment elle compte faire pour rentrer en France. France Info, il est 5h06. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, ce procès qui débute ce matin. Procès sous tension, celui de Tariq Ramadan. L'islamologue suisse est accusé de viol par trois femmes. Elles décrivent des faits d'une grande violence qui se serait déroulée entre 2009 et 2016. L'une des plaignantes devrait demander et obtenir le huis clos, Mathilde Lemaire.
Elles disent avoir été attirées par un homme charismatique et bienveillant qui, dans l'intimité, a changé de regard en un éclair pour leur infliger gifles, coups, insultes, étranglements. Pour l'une d'elles, elles disent avoir été tirées par les cheveux, s'être fait uriner dessus par le prédicateur musulman. Maître Kaminski représente Enda Ayari, l'une des trois parties civiles.
Imaginez une femme seule, prisonnière, dans une chambre d'hôtel, un soir, avec un homme, plus fort qu'elle physiquement, qui se sert d'elle comme une espèce de sac de viande. La lecture de ces procès-verbaux, j'ai pourtant 30 ans de barre, je vous le dis, est glaçante.
Pendant la première année d'enquête, Tariq Ramadan a farouchement nié avoir jamais même rencontré ces femmes, mais face aux éléments du dossier, il a fini par reconnaître des relations sexuelles avec elles, absolument consenties selon lui, l'une de ses quatre avocats, Marie Burgueburu.
Ces relations, elles ont été voulues, elles ont été anticipées de manière conjointe. Mon client, M. Tariq Ramadan, fait l'objet d'accusations mensongères. Les parties civiles ont essayé de fomenter un complot, un piège.
Les avocats de Tariq Ramadan ont multiplié tous les recours possibles depuis 8 ans, réclamer même que la juge qui doit présider les débats soit récusée. Ce matin, ils vont demander le renvoi du procès en raison de l'état de santé de leur client et du fait que l'audience se tient pendant le Ramadan.
Merci Mathilde Lemaire, service police-justice de France Info. Les supporters de l'OM peuvent souffler un petit peu ce matin. L'Olympique de Marseille s'est imposé face à l'Olympique Lyonnais hier soir. Ils ont pourtant été menés à deux reprises, mais se sont imposés 3-2 en clôture de la 24e journée de Ligue 1. Marseille est 4e, mais cette victoire permet de se rapprocher de Lyon, qui est 3e. Une éclaircie bienvenue, alors que l'OM n'avait plus gagné en championnat depuis un mois, Nicolas Perronnet.
Jamais le Vélodrome n'avait rugi comme ça cette saison, comme pour célébrer une renaissance.
Ah oui, c'est un hommage.
Un de ceux qui compte plus que les autres. Celui-ci a provoqué un soulagement général dans tout Marseille. De Jo, supporter de 88 ans.
Content, pour une fois, on pleure plus. Ça fait plaisir quand même. Hein. On avait tellement l'habitude de perdre qu'on croyait que ça allait durer longtemps.
Jusqu'au capitaine de l'OM, Pierre-Emile Højbjerg.
Je suis très fier. Je suis très fier d'être ici. Je suis très fier de l'équipe. Je suis fier d'être Marseillais.
Et fier de l'homme du match, Pierre-Emerick Aubameyang, auteur d'un doublé alors que Lyon menait 2-1.
C'était un beau match, je pense, avec du tempo, des duels, des buts. On a été la chercher au mental.
Agrémenté d'un brin de réussite, reconnaît le nouvel entraîneur olympien, Habib Bey.
Il faut de la réussite dans ces matchs-là, mais il faut aussi de la constance. Et de la constance, on en a eu sur ce match-là. Donc oui, de la réussite, on en a. Elle tombe du bon côté. Mais il faut savoir aussi aller provoquer ce type de scénario. Et les supporters, je pense, ont vécu un très beau moment. Et pour bien connaître Marseille, je pense que les gens iront au travail avec un petit sourire.
Car il y aura bien un printemps marseillais en championnat, enfin une éclaircie, après des semaines de crise.
Nicolas Perronnet. Il est 5h10 sur France Info. Christine Peignard nous rejoint pour la météo encore. Et vous nous dites qu'il y a beaucoup de soleil aujourd'hui.
Ouais, c'est une belle journée qui débute et une belle semaine également qui débute avec ce temps calme, ce soleil qui se maintient plus ou moins voilé, c'est vrai, à l'ouest du pays. Près de la Méditerranée, c'est pas vraiment une très très belle semaine. Le vent marin pousse les nuages vers les terres, donnera selon les jours des nuages avec quelques pluies. C'est le cas aujourd'hui et ça sera le cas en fin de semaine. Ça va se gâter dans le sud. Au niveau des températures, nous avons une belle différence avec le matin. Froid le matin, on maintient quand même le manteau, mais cet après-midi, on va pouvoir tous l'enlever. 15 degrés à Alençon, comme à Montpellier avec les nuages. Montpellier, 15 degrés, ça va plafonner. 16 à Lille, à Toulouse, 17 à Paris, à Nancy, à Bourges. On a une belle homogénéité du côté.
Oh là, c'est pas facile à dire.
C'était ambitieux. 17 à Paris, bah oui, à Lyon, à Montauban, à Montélimar également. 19 à Ajaccio, on ira jusqu'à 20 degrés à Biarritz.
Merci beaucoup Christine Peignard. On vous retrouve à 5h28. On retentera de dire homogénéité. Du coup,
c'est beau.
Merci Christine.